Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure tous les soirs. Ce soir, le réalisateur Ritipan.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h. Marie Richer.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
La France s'en est allée, c'est une histoire d'images. Une histoire en images, belles et empoisonnées. Et les images se jouent de nous. Je les ai montées en silence, à ma façon indigène, ainsi déjouées, elles nous apprennent à regarder, à les regarder. Parfois l'histoire est sans voix, il n'y a pas d'histoire universelle. Voilà quelques mots que l'on peut lire à la fin de votre film « La France est notre patrie », Ritipan, ce film où le montage et les cartons de texte enjoignent notre regard à examiner, je n'ai pas trouvé d'autres mots, méditer peut-être ce que déploient ces images de propagande coloniale tournées en Indochine, pour y lire une autre histoire, une histoire en creux, une histoire déplacée. Ce film sort en DVD en dialogue avec un autre film qui s'appelle Exil, tous les deux chez Epicentre. Exil est une œuvre éminemment mentale, différente, un huis clos pour un homme dans lequel les objets sont gravés de récits, d'images encore, de gestes inoubliés, et dans lequel il est possible que des mains disparues caressent un visage. Bonsoir et bienvenue, Ritipan.
Bonsoir.
Je dis que ce sont deux films qui sortent en DVD en même temps et qui peut-être dialoguent, comme si c'était pas exactement un diptyque, mais en tout cas des films sincèrement à mettre en relation. Est-ce que c'est comme ça que vous les avez pensés ?
Peut-être pas directement, mais dans ma fabrication, oui. Souvent, dans la base de mon travail, c'est beaucoup de dialogues avec l'absence ou des dialogues avec les morts. Et j'ai une passion assez terrible avec les archives. Donc j'ai appris à aimer, à décortiquer les images, à voir des archives, puis à trouver un autre sens. Peut-être, pour moi, chaque image ou chaque archive a une âme, une sorte d'âme qu'on peut tout à fait regarder, re-regarder encore, et puis soudain surgisse une parole que vous êtes seul à entendre. Et voilà, j'aurais aimé que les gens voient ça, les gens sentent ça, les publics, surtout s'ils sont patients, s'ils sont curieux, de venir vers l'essentiel peut-être. L'essentiel dans le regard, l'essentiel dans les gestes, dans le silence même. On supporte de monde en monde le silence. Ces moments numériques, cette période numérique où tout va si vite, où les paroles sortent comme un mitraillette, la colère et flamme. Peut-être c'est bien aussi de se poser et prendre une bonne distance et voir ces images.
D'ailleurs, les mots sont assez rares dans ces deux films-là. Quand ils arrivent dans Exil, peut-être un peu plus nombreux, mais en voix off, mais toujours par petits paquets, comme s'il fallait du temps pour les assimiler. Ce sont deux gestes assez différents. Il y a un film qui travaille avec des pancartes, pareil au cinéma muet, et un film qui travaille en voix off, Ritipan. Mais ça m'intéresse ce que vous dites, parce que en introduction, je disais, j'ai pas trouvé d'autre mot que le mot examiner ou méditer, comme si en effet c'était une invitation à regarder, mais de très très près, quoi, de coller son regard, ou alors de très très loin, mais en tout cas d'avoir une interaction assez puissante avec ces images d'archives.
Oui, mais moi surtout, j'ai l'impression d'être en plein effacement, en fait. Moi, j'ai cru énormément à l'image, à la révolution même de l'image, de la démocratisation de l'image. Et finalement, cette image m'efface. Il y en a tellement qu'on a perdu le sens de mesure, le sens de temps. Et je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il mérite d'être, comment dire, prendre et examiner, comme vous dites, ou méditer. Et puis, l'histoire est faite aussi de l'image. C'est l'histoire depuis que le cinéma existe. Il y a une manière de regarder l'histoire aussi. Le cinéma était comme un plaisir au départ, comme un spectacle, un business, quoi. On fait, et puis on envoie des gens partout dans le monde, en Afrique, en Asie, et puis on filme les gens pas dans leur dignité, souvent on filme par curiosité ou par des sauvages, quoi. Des sauvages, il fallait les regarder. Et puis ces images viennent remplacer les eaux humaines. Donc voilà, ils circulent, quoi. Une autre image qu'on fabrique de nous. Et je pensais qu'on a évolué de ça, qu'on a sorti de ça avec des grands cinéastes, qui Eliane de la Tour ou Jean Rouge qui fait un travail assez important. Et puis, moi, je pensais pas nécessaire de retourner. Et un jour, j'ai entendu un discours du président français Sarkozy, et un extrait, puis sur l'homme africain. Et si on lit les discours en entier, c'est encore plus étrange que l'extrait. Et je me dis, si je retournais voir l'homme qui ne rentre pas dans la civilisation, dans l'histoire, qui sont ces hommes-là, comment on regarde ces hommes-là, comment on fabrique les images de ces hommes-là. Et la France et notre patrie viennent de là. Et j'étais pas du tout en colère, j'étais pas colonisé, hein, je suis pas jamais été colonisé. Donc c'est plutôt pas la chose, le jugement qu'on fait si vite d'aujourd'hui encore. Sur que la différence et les autres. Donc voilà, c'est juste pour moi une redécouverte même d'une partie d'image que je connaissais pas, quoi. Donc je m'appuie beaucoup sur que les images amateurs aussi. Et dans mes travaux, je m'attache beaucoup à comprendre l'intention, en fait. Quand je travaille sur les Khmer Rouges, c'est l'intention de tuer qui m'intéresse, l'intention du génocide qui m'intéresse. Le génocide en soi, c'est pas ma... Je suis pas un cinéaste du génocide. Je fais mes films. Et puis, vous avez dans l'image qui est faite par les amateurs, ou par les militaires, ou par les opérateurs des films de propagande, il y avait toujours une intention, un regard, qu'on peut tout à fait... remettre dans le perspective et, comment dire, faire sentir les conditions de fabrication, quoi. Et là, le silence devient intéressant, ou la musique devient intéressante, ou les pancartes, enfin, les écritures, les peu d'écritures, assez il y a une langue, quoi. Chaque époque, il y a sa langue. Chaque régime totalitaire a sa langue, chaque colonie a sa langue particulière, dont il est important de retrouver les originalités de ces langues-là aussi, et de imaginer comment cette langue travaille aussi sur les images.
Et d'ailleurs, c'est exactement le procédé du film dont je disais qu'à la fois le montage et les cartons de texte, mais vraiment les deux ensemble, demandent à notre regard de regarder peut-être une nouvelle fois, même quand on n'a jamais vu ces images, mais avec un regard renouveler ces images de propagande. Évidemment, quand on voit des pancartes avec la tonkinoise et sensuelle et soumise, ou bien chaque soldat choisit sa petite épouse, et qu'on voit des défilés d'hommes habillés en blanc avec des femmes dont on sent que l'accord n'est pas un accord consentant, qu'elles sont là comme attrapées, comme capturées, évidemment qu'on ne peut pas souscrire à l'intention de légèreté qui était peut-être celle de celui ou celle qui a fait l'image au moment même. On est évidemment déplacé. C'est pour ça que je disais, c'est comme si ça produisait une histoire et un regard déplacé, Rédipane.
Oui, mais en même temps, l'histoire répète encore. Mais quand vous allez vers les réseaux sociaux, vers l'Instagram, autres, vous avez encore ces genres d'images parfois. Pattaya ou on ne sait pas où, Congo, je ne sais pas quoi. Certains, de temps en temps, une espèce d'accès de fièvre qui reviennent comme ça, une fièvre malsain. Et ce regard qui est malsain, qui reste en nous toujours. Et je ne sais pas, je ne suis pas du tout théoricien de l'image. Je prends l'image telle quelle, je suis un praticien plutôt. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir comprendre comment, durant cet espace-temps, nous n'avons pas réussi à éduquer aussi notre attitude par rapport à une image. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que vous prenez le film selon qui vous êtes. Il n'est pas du tout... il est un peu pas complètement... objectif non plus. Je suis jamais, quand on fait un film, on n'est jamais objectif vraiment. On est toujours dans l'engagement aussi, dans l'engagement politique, l'engagement de cinéaste, d'art aussi, de trouver une forme aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de faire des films qui permettent aussi aux autres de s'approprier avec sa propre culture, son propre regard. Alors, quand vous êtes à faire projection à Paris, il y a des gens qui viennent me voir et qui m'engueulent, qui disent mais la colonie c'est quand même des choses bien, et on était sur le pont quand même de voter une loi sur les bienfaits de la colonie tout de même.
Au moment où vous travaillez sur ce film là.
Oui, et puis alors ça me fait relire tout Robespierre. Je sais qui bien, c'est Robespierre. Je connais la terreur, tout ça qui vient après. Mais Robespierre, c'était un des premiers mecs qui dit arrêtez la colonie, arrêtez l'esclavage, le droit du sol. C'est le fondement de la République, quand même. La citoyenneté aux Juifs, par exemple. Ils n'avaient pas droit de vote à ceux qui payent d'impôts. Une idée super moderne qu'on devrait le reprendre aujourd'hui, c'est les taxes sur les transports des grains. On taxe sur les transports des grains pour donner à ceux qui n'ont rien à manger. On aurait pu faire des taxes sur des transactions financières aujourd'hui, hein. C'est
comme
pareil.
Ça, voilà.
Voilà. C'est juste une idée qui cherche actuellement quelques idées. Je veux dire, 1% sur les sur des transactions financières, ça éviterait peut-être que des pavés s'envolent partout dans tous les sens.
Comme ça.
Et voilà, c'est intéressant l'histoire de la France, finalement. Vous partez des archives, vous retournez vers Robespierre. Et après j'ai lu Saint-Just, que je ne comprenais rien du tout. J'ai du mal, j'ai dû lire un autre mec qui écrit Saint-Just, qu'il écrit un ancien français. Et moi, je sais pas ma langue, vous savez bien que c'était pas ma langue maternelle, donc j'ai fait un grand effort de comprendre cette belle langue et ces belles choses de la France que j'aime énormément. Je crois même parfois que j'aime plus que les Français la France, par sa propre culture, par sa propre, ses idées lumineuses. Et, du coup, j'ai voulu faire l'exil avec que Saint-Just.
Quel deuxième film,
oui,
dont on va parler ce soir.
Le départ de l'exil, c'est comme ça aussi. J'ai dit à Christophe Bataille, qui est un écrivain, qui a collaboré ensemble avec nous depuis deux, trois films. J'ai dit, Christophe, je crois qu'on va prendre les textes de Saint-Just, on va réarranger, on va peut-être découper comme des miettes de choses, puis on balance en l'air comme les Beatles l'auraient fait. Et on prend des petits bouts, comme Raymond Queneau, vous voyez, 100 milliards de poèmes, là, vous êtes, c'est extraordinaire ce bouquin, vous vous mettez dans tous les sens, ça fait un poème, quoi. Elle dit, on va essayer de faire du Raymond Queneau avec Saint-Just. Mais on était parti comme ça, et puis on était sorti.
Finalement,
avec,
vous avez jeté des miettes de texte de tout plein d'autres
auteurs. Oui, parce que.
Ton exil.
Il y a tellement des auteurs. Qui m'apprend à vivre, en fait. L'histoire est comme ça. Mais j'ai aimé ce travail en désordre. Je n'ai pas de... je n'ai pas de plan. Je n'ai pas. Faut surtout pas me croire quand je dis je vais faire tel film. Ça fait jamais ce film.
C'est pour ça que vous avez écrit, ou en tout cas peut-être Christophe Bataille vous prête ces mots-là. J'ai monté ces images à ma façon en indigène.
Oui, peut-être. Oui. Parce que lui, il me décrypte aussi. Il sait bien me décrypter parce que c'est pas évident. Christophe, c'est quelqu'un qui a vraiment une belle sensibilité parce que il reçoit les textes en pas texto, parfois une phrase, deux phrases, une photo, une page, tout ça quoi. J'aime bien quand les choses se recoupent, se mettent ensemble, prennent forme. C'est le montage dans un film, ou certainement chez vous aussi à la radio, est extraordinaire qu'on associe un son et une parole et une image.
C'est notre passion quotidienne.
Et c'est extraordinaire quand il y a une idée qui surgit de ça. Et je ne sais pas comment concevoir un film La France est notre patrie, comme ça, quoi.
Bah, puisque vous parlez des voix qui surgissent, on va commencer à rentrer dans notre travail de montage, Rétipane, avec la voix d'une réalisatrice d'une quarantaine d'années qui s'appelle Mila Turajlić, réalisatrice serbe qui a beaucoup travaillé autour des archives. On l'écoute.
La naissance de chaque nouvelle période politique, ça veut dire que quand un de ces deux côtés gagnait le pouvoir, leur stratégie de se mettre en place et d'installer leur pouvoir était d'effacer le passé. Et du coup, quand les communistes sont venus au pouvoir, ils ont effacé l'existence d'un royaume yougoslave qui l'a précédé. Quand les nationalistes sont venus au pouvoir, ils ont effacé tout ce qui était l'héritage communiste. Nous, bizarrement, quand on a une révolution, disons, démocratique en 2000, au lieu d'ouvrir les archives en disant « maintenant, allez, on va discuter de la rôle que nous on a joué dans les derniers 10 ans ou 20 ans ou 30 ans », notre nouveau président a dit « écoutez, on est une démocratie très fragile, on va pas ouvrir ni les archives de l'État, ni les fosses communes, donc on va rien ouvrir parce qu'on est trop, on est dans une fragilité, démocratie naissante, on va parler de rien ». Le résultat est que 15 ans après, les nationalistes ont repris le pouvoir. À mon avis, aussi à cause du fait qu'on n'a pas raconté à la jeunesse ce qui s'est passé. Et du coup, tout ça pour dire que quand vous grandissez dans un pays qui est dans un effacement permanent de son passé, en fait, l'héritage qui vous manque, c'est un récit. Et si vous n'avez pas un récit, vous n'avez pas une identité. Et du coup, ça va beaucoup plus loin que voir le passé, c'est j'ai besoin que quelqu'un me le raconte. Moi, j'ai eu cette chance de grandir dans une maison où il y avait une femme très capable de raconter le passé. Mais c'est très 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 rare.
On parlera avec vous tout à l'heure, Rétipane, du merveilleux travail sonore et musical que fait le musicien Marc Marder dans vos films. Ce film-là, là on entend ici une partie de la bande sonore de La France est notre patrie. Et c'est vraiment, on parlait tout à l'heure des cartons de texte et du montage d'images, mais c'est presque le troisième personnage de ce film, c'est tout le travail sonore. Mais revenons un instant sur ce que disait Mila Turajlić. en disant « moi, j'ai pas besoin de voir le passé, j'ai besoin qu'on me le raconte ». Et l'héritage dont je manque, c'est un récit. Il y a une partie de votre travail, Ritipan, qui semble rejoindre l'interrogation de cette jeune réalisatrice serbe.
Oui. Très vite, je suis retourné au Cambodge pour essayer de former les jeunes gens à faire des films, parce que les Khmer Rouges ont quasiment tout détruit. Et on trouve encore des choses, mais on trouve des images surtout en France, dont il faut redemander à le CPAD, à l'INA, à l'ancien ORTF et tout ça, les amateurs qui possèdent ça, Albert Kahn, il faut vraiment collecter image par image partout. Et j'avais besoin de... j'arrive pas à former des gens sans une cinémathèque, un genre cinémathèque où il y avait un peu d'image de nous. Et puis, à partir du moment où on a ce centre Bopana, j'ai enfin réussi à former une nouvelle génération de techniciens, de documentaristes ou de cinéastes qui raconte l'histoire, en fait. Et on a besoin, peut-être quelqu'un nous raconte, ou d'autres jeunes, d'autres façons de faire aussi. Parce que si on n'arrive pas à fabriquer, produire les images de nous-mêmes, on n'existe plus dans ce monde multimédia. Et on perd notre langue, on perd tout. Et c'est une chose que j'en veux absolument à l'Internet. Ce que je pensais, c'était un projet de partage. On sera dans un village et on partage tout. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est un nouvel instrument de domination. C'est ceux qui possèdent le tuyau, c'est ceux qui décident ce qu'il y a dans le tuyau, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut pas entendre, ou quel genre d'image, quel rythme, quel silence, tout, quoi. Et donc il faut que nous essayons de fabriquer nos images en préservant notre langue et notre façon de voir. Vous savez, un Japonais ne fait pas le même film qu'un Philippin ou qu'un Cambodgien.
Ou qu'une Serbe.
Ouais, et aucune Serbe, même si on dit qu'ils sont tous asiatiques, mais non, l'Asie est divers. Comme on dit, ah, les Africains, non, ils sont divers, c'est multiple Afrique. Et c'est toute cette tambouille-là fait qu'il n'y a plus cette multiple Asie et multiple Afrique. Il y a un Asie, un Afrique, un tout comme ça. Et on a besoin de revenir, comme je disais tout à l'heure, à cet essentiel. Même un geste, même une respiration, je ne sais pas. Un détail de la vie, quoi. Je travaille toujours avec une phrase de René Char. J'aime beaucoup René Char. C'est un guide, pour moi, une espèce de ange gardien sur mes épaules.
La chance.
Et René Char disait que l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Et voilà. Et on a plein de l'insignifiance partout. Donc, il faut qu'on revienne à cet essentiel. Le détail des choses, et le cinéma peut. Il y a certaines choses, beaucoup de choses le cinéma ne peut pas, et que la littérature amène très loin, mais il y a des choses que la littérature ne peut pas, et que le cinéma peut. Le son, l'image peut. Et il faut juste trouver une manière de pratiquer ce cinéma selon votre propre sensibilité, selon votre propre histoire. Et parce que le sujet, quand même, le sujet le plus, le central pour nous, les petits peuples, c'est notre identité. Est-ce qu'on arrivera à le préserver ou pas? Et avec l'identité, tout va avec. Notre dignité, notre façon de vivre, notre façon de penser va avec. Donc cette identité-là, passe beaucoup maintenant par l'image, par la fabrication de l'image, par un savoir-faire de produire cette image.
Est-ce que ça va aussi dans le sens de ce que disait Milat Oraylić, c'est-à-dire les régimes successifs font en sorte d'effacer le plus possible d'images des vies passées et que ça participe de leur installation politique, cet effacement d'images. Alors est-ce que vous diriez, Ritipan, que d'une part, retrouver des images, les regarder autrement, et d'autre part, en fabriquer des nouvelles, est un geste qui va contre ça?
Oui, contre. Orwell nous a déjà dit, il décrit depuis longtemps, qu'est-ce que c'est une image unique, partie unique, pensée unique, vie unique. Il y a des éclaireurs comme ça qui nous préviennent, mais on n'écoute pas, on ne regarde pas. Donc, ce qu'il faut, c'est ça exactement, oui. En fait, tout le travail de l'art en général, de la culture, c'est une lutte contre l'anéantissement. Pour moi, je suis un survivant dans une tragédie, j'ai fait des films, j'ai la chance, sinon je mourrais, je pense. Je suis mon propre patron, je crée quelque chose. J'imagine parfois, si je devais être en usine, je ne tiendrais jamais. Je peux pas gérer mon mal-être. Et l'art me permet de gérer mon mal-être, en fait, hein, cette blessure. Mais il est là. Mais il faut apprendre à vivre avec. Et j'essaie d'utiliser le cinéma comme une manière de, comme dans mon dire, c'est inversement proportionnel à l'anéantissement. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à la science, en fait. À travers, j'ai pensé à l'atome, j'ai toujours aimé la science, et malheureusement, je ne comprends rien. J'ai toujours aimé, vraiment, je lis sans comprendre. Je peux lire un livre de Friedman, mais c'est tellement beau, mais je comprends pas tout, hein. J'essaie de comprendre. Je regrette ne pas avoir un cerveau un peu scientifique, mais je sentais que on peut tout détruire sauf un petit truc. Par exemple, dans un, qui s'appelle ADN, quoi. Et c'est une personne. Et voilà, cette identité-là, ça peut être juste une graine d'ADN, quoi, qui dit, voilà, vous pouvez pas nous détruire. Il reste toujours une trace quelque part qui représente une personne, et non seulement une personne, une histoire, toute une sensibilité, tous ses souvenirs, tout ça. Et je travaille beaucoup en ce moment avec ça, avec ce sujet, comment les choses transmettre, comment le bonheur comme le mal-être se transmettent, et comment aussi le surmonter, comment cela nous imprègne en nous, et comment agir au niveau même cellulaire, et qu'est-ce qui résiste. Et je pense qu'on ne peut pas détruire un être humain entièrement. Il reste toujours une trace quelque part. Et là, le cinéma a un rôle, trouve sa place comme passeur, comme un espace de réflexion collective, comme un espace d'échange, souvent je passe un film et puis les gens passent, il n'y a pas longtemps encore, il y a 48 heures, je passe un film à Singapour et qu'il y a le père et la fille est là. Regardez, Cambodgiens, d'origine cambodgienne, ils ont quitté leur pays. Puis le père ne dit jamais des choses à la fille, quoi. Et la fille, le père n'arrête pas de pousser la fille pour venir me voir à la fin du film. Et puis j'ai dit, bon, je connais votre problème. Ton père t'a pas raconté son histoire, c'est ça. Maintenant, tu as vu mon film et tu as retrouvé tes images, en fait. Voilà, ça s'appelle l'image manquante. C'est le tien, ça, tes images manquantes. Prenez-le. Et c'est pas la faute à ton père. C'est difficile à raconter. Maintenant, c'est à toi, prends-le. Voilà, c'est l'image manquante, c'est ça aussi.
C'est aussi un des titres de votre film, Ritipan. On peut pas détruire un être humain, et vous travaillez avec l'art en proportionnel à l'anéantissement. J'ai vraiment la vision d'un creux et d'une montagne. Et dans les traces dont vous parlez, Ritipan, dans les traces que vous regardez, il y a les objets. Et on va en entendre parler dans la voix de Georges Perros.
Je suis un routier plutôt, que je ne me trouve à l'aise que sur la route d'ailleurs. Que sur une route entre, ou entre deux trains, sur un quai de gare ou sur la route. Là, je me sens très très bien. Et je ne suis jamais plus heureux que quand je m'arrête pour un coup dans un petit bistrot de campagne, dans une petite, dans un petit bled, tout seul, et là je suis parfaitement à l'aise, je suis parfaitement au monde, sans hérédité, sans avenir, et alors le danger c'est d'oublier que j'ai une femme et des enfants. Je ne l'oublie pas, évidemment. Je n'ai pas besoin d'y penser, naturellement. Le récit c'est un voyage, le récit c'est une errance, naturellement, et ça a dégelé toutes ces notes qui auraient été, évidemment, un peu élémentaires, comme ça... En fait, ça n'aurait pas dû être publié, toutes ces notes. Ça aurait dû rester à l'état de brouillon et de mots valises, comme on dit, de petites choses comme ça. Et là, la valise, je l'ai ouverte, tout simplement. J'ai ouvert la valise. Et quand on ouvre la valise, on prend le linge et on prend la brosse à dents et on prend tout ce qu'il y a dedans. C'est ça, le récit. Ce sont les objets qui font des récits, ce n'est pas... Tout à coup, c'est l'objet qui se met à réciter son utilisation.
J'ai connu des hommes qui choyaient la cuillère pendue à leur cou, comme d'autres les statues de la divinité. J'ai connu même un régime politique où étaient interdits les lunettes, les crayons, les montres, l'argent, l'école. Et la cuillère de vieux fer est devenue un trésor tant nous avions faim.
France Culture, par les voies qui courent, Marie Richeux et Riti Pan.
On bascule dans le deuxième film que je citais en introduction. Riti Pan, il s'appelle Exil, et juste avant la voix de Georges Perros en 1979, qui dit que l'objet récite son usage. L'objet peut dire l'utilisation qu'on a fait de lui. Et dans Exil, qui est un film très particulier, parce que c'était un seul endroit, mais un endroit mental, donc un endroit infini, dans lequel un homme fait des gestes, regarde des objets, regarde des images, regarde un saladier sur lequel peut apparaître des images, tient autour de son cou une cuillère dont il était question là dans la voix off. Et les objets ont vraiment une force d'évocation qui va au-delà de la force d'évocation. Qui est de quel ordre pour vous, Riti Pan?
Je ne peux pas voir un objet maintenant sans un souvenir, quoi. Une cuillère, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas seulement une cuillère. À l'époque des Khmers Rouges, si vous n'avez pas votre cuillère, vous ne mangez pas, quoi. On vous exclut de la cantine. Et puis, les cuillères, si vous en avez, vous savez, ils avaient un plateau collectif où ils mettent du potage dedans et puis on doit manger tout ensemble. C'est le collectivisme jusqu'au bout, quoi. Avoir une assiette à soi, c'est déjà privé, individualiste. Donc il faut avoir une casserole ou un grand plateau et on met des choses dedans, puis tout le monde mange sur le même récipient. Mais seulement vous avez des petites cuillères et puis des grandes cuillères. Moi, j'avais une grande cuillère. De l'armée américaine. Je ne sais pas comment ma mère a trouvé ça, parce qu'on était parti de notre maison sans rien. Je crois qu'elle a dû échanger contre un peu de l'or, une cuillère, une bracelet avec des cuillères, tout ça. Et alors on a une cuillère, et la cuillère, elle est grande. Alors c'est là qu'il faut décider ensemble. Soit vous avez une petit peu de lueur qui reste, de lucidité, et que vous dites que votre cuillère est grande, vous prenez 3 cuillères et les autres à droite pris 4, c'est à peu près juste. Soit vous prenez 4 et les autres prennent 4, et c'est injuste. Et dans cette quelque chose d'injuste peut parfaitement détruire une sorte de solidarité de petits groupes. Et quand le petit groupe n'est plus ensemble, ne sont plus liés par une vie collective, le respect collectif, on meurt. Voilà, chacun meurt les uns après les autres. Voilà, les cuillères, c'est ça, c'est cette histoire. Alors comment, chaque fois quand je vois une cuillère, j'essaie de raconter, la vie n'étienne qu'aux petites choses. Et l'objet raconte. L'objet a une mémoire. L'objet, je pense, ça doit être pareil pour ceux qui ont survécu au camp nazi ou qui ont les violons encore, qui ont des petites choses, qui même certains qui ont des numéros de tatou qu'ils ont enlevés, ils l'ont fait sécher, mettre dans une boîte, et c'est comme une part de devenu un, je sais pas, un semi-objet, semi, je ne sais pas quoi. Il y a pas de nom, mais qui garde une mémoire. Qui garde mémoire, cette mémoire-là est précieuse.
Comment vous avez organisé cet espace dans lequel vit un homme pendant tout le film Exil, où les choses apparaissent, des fantômes, des formes, des visages, des mains, de femmes, des visages de mères, des objets, des images d'archives. C'est comme si j'ai vraiment eu l'impression de voir une sorte de crâne.
Oui. Ça peut être dans ma tête, mais c'est une maison dans ma tête, en fait. En fait, pour survivre, il faut savoir protéger le souvenir le plus intime que vous possédez. Si vous avez la chance de l'avoir, c'est merveilleux. Vous enfermez dedans, quoi. Moi, dès que j'ai un moment, ça y est, pour me protéger, je rentre très profond en moi. Et je retrouve les disques des Beatles, j'ai trouvé les chansons des Bee Gees, j'ai trouvé des chansons que je comprenais pas du tout la langue. Mes frères écoutaient Hallyday ou Sardou à l'époque, c'était... on a des émissions des Gilbert et Marie Carpentier au Cambodge, quoi, dans les échanges culturels. Il y a la télé, il y avait Paul Naref qui chante « Love me, please love me » et je comprends absolument rien à ce qu'il dit après. Mais ça me permet d'inventer des paroles.
Il dit « Je suis fou de vous ».
Oui, oui. Et je chantais à ma maîtresse quand j'étais petite, à 5 ans. J'étais amoureuse de ma maîtresse. Je chantais sous sa fenêtre « Love me, please love me ». C'était mignon, quoi. Et j'ai gardé ce souvenir et j'ai chanté, j'ai greffé des mots dessus. Et je pleurais avec ça. Mais c'est une pleur qui libère. Et une pleur qui me rend libre, en fait. J'avais plus rien, j'avais que ces mots, j'avais que ces souvenirs de ma famille. Et pour rester vivant, pour rester humain, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'humanité des autres, de l'humanité de ceux qui sont morts. Et donc je m'enferme dans ma petite tête, mon petit espace. Je n'ai plus de mesure du temps. Je ne sais plus les dates, je ne sais plus les jours. Alors j'avais la lune comme mesure du temps. Si la lune est pleine une fois, ça veut dire un mois, c'est tout ce que j'ai. Et j'essaye de naviguer avec ça, j'essaye de quand même... On ne peut pas tellement fixer de but parce qu'on survit le soir et puis le matin on est content d'être vivant. C'est difficile de raconter ça maintenant comme ça, mais à l'époque c'était comme ça. Donc il faut fixer l'espoir. Et comme il n'y a pas d'espoir, comme le langage même totalitaire, il y a du langage Khmer Rouge, et le langage totalitaire, c'est un langage guerrier, c'est un langage de révolution, de destruction, de classe et tout ça. Donc il me reste mes propres mots, j'ai tissé sur les mélodies des Bee Gees, quoi. Et ça me permet de rester humain.
Ça veut dire que cet homme que vous filmez et qui fait tous ces gestes et qui est vraiment qu'on regarde comme ça pendant tout le film Exil, Ritipan, c'est un homme qui est vous mais qui est aussi tous les humains qui ont eu à vivre ce soir où il n'y a plus d'espoir et où on se couche et le matin où on se lève et on constate qu'on est vivant.
Oui, pour pas mal de gens, on fait le film, moi je crois pas souvent à ça, mais je me dis quand même si je suis assez sincère dans mes propos et ça rejoindra quelqu'un, l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que le soir, c'est la mort, quoi. Les gens meurent la nuit, hein. C'est souvent ils meurent la nuit. Donc c'est un bagarre aussi le soir, parce que le soir c'est l'obscurante, c'est l'obscurantisme, c'est le noir de la nuit, c'est la faim. Vous ressentez beaucoup la famine le soir, le mal, vraiment mal. La famine est quelque chose d'extrêmement mal. Je sais pas comment sortir de ça. Et cette dont je pense que le plein de gens, on n'a pas le droit de parler parce qu'il y a des qui étaient surveillés. Il y a toujours des miliciens qui trottent ici et là. C'est comme dans les camps nazis, hein, les camps nazis allemands, quoi. Vous pouvez pas parler comme ça, quoi. Un certain camp, on restait silencieux un certain temps. Ou comme vous allez dans le Gangoulak, la nuit arrive, le froid, la faim, et ça y est, la mort n'est pas loin, quoi.
Vous dites qu'il y a un langage totalitaire, il y a un langage Khmer Rouge, il y a aussi un langage révolutionnaire. Et ce texte qui est là, dans Exil, qui est un texte épars, on va en parler, Ritipan, mais on en écoute un extrait.
La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre.
On entendait tout à l'heure un extrait du film Exil et ce propos sur la révolution. Et puis, en début d'entretien, vous avez dit, fut un temps, j'ai eu imaginé que ça ne pouvait se faire qu'avec des extraits de textes Saint-Just. Et au final, c'est pas ce qui s'est fait. Et nous, spectatrices, spectateurs, on ne connaît l'origine des textes qu'on entend qu'à la toute fin, si on est très attentif dans le générique. C'est bien que ça donne une grande ambiguïté à ce texte de voix off, une ambiguïté parce que plus ça va, plus on se rend compte que c'est pas un texte d'un bloc, que ce n'est pas une voix, qu'on n'essaye pas de dérouler quelque chose de dogmatique et d'homogène, mais au contraire, très hétérogène, parfois très grinçant, on ne sait pas exactement sur quel pied danser. Comment l'avez-vous pensé, ce texte-là, avec Christophe Bataille?
Moi, j'essaye de toujours travailler comme ça. Je dis à Christophe, on n'illustre pas les mots, les images, s'entrechoquent ou cohabitent, mais on n'illustre pas. Il faut le travailler avec des phrases courtes et il faut ne pas hésiter la poésie. Moi, j'ai toujours cru, comme on va à l'église, en le pouvoir des mots, de la poésie. Parce que c'est la poésie qui m'a sauvé la vie. La poésie, c'était... Quand j'étais petit, mon père, il me récitait un poème que je savais pas ce que c'est, mais je parlais pas le français. et qui me dit toujours cheveux noirs, caressés par le vent. Et alors, il était ému par ça. Et ça me restait cette sonorité, cheveux noirs, caressés par le vent. Puis après, pendant les périodes les plus dures, j'ai récité ça, quoi, en français. Et quand je suis arrivé en France, j'ai décidé de ne plus parler cambodgien, ne plus lire, ne plus écrire. J'avais besoin d'une langue de refuge. C'était cette langue, cheveux noirs, c'était Jacques Prévert, quoi. Et c'était la poésie. J'étais rentré là-dedans, dans cette langage-là. Et voilà, et donc on travaille sur différents textes, on travaille en décalage, on travaille... Christophe ne sait pas parfois où moi je veux y aller, ni Marmadère, parce qu'on est trois ou quatre à travailler dessus, avec Agnès Enemo aussi qui m'envoie des textes. Hein. Et parfois je dis, tu t'en souviens un truc une phrase de et après on m'envoie de Prévert, de René Char, tout ça. Et après Christophe il arrange avec ça. Parfois il reçoit des extraits des films, parfois c'est le texte qui guide l'image, parfois c'est l'image qui guide le texte, puis à la fin on change tout, l'ordre et tout ça, on recoupe tout. Alors lui il est libre d'écrire. Et puis je remonte, comme on remonte le film, l'image, quoi. La musique, c'est pareil. On a l'habitude de travailler ensemble comme ça. Le musicien compose selon quelques images, selon une indication. Puis après, parfois, on remonte la musique. Et je crois que cette force de poésie ne peut pas être trop enfermée dans une structure. Il faut que chacun s'exprime un peu à sa manière. Et après, le rôle de réalisateur, c'est aussi de remettre en perspective tout ça, remettre tout ça en... Ça devient film, quoi. Ça devient...
Mais ça fait aussi... Ça devient aussi quelque chose où... par exemple, c'est difficile de dire... Rétipane pense ça du discours révolutionnaire. On peut pas. Quand on a vu Exil, on peut pas avoir de point de vue clair sur ce que vous pensez de la langue révolutionnaire ou même de la poésie révolutionnaire. Oui. Parce qu'en fait, il y a une dissidence même dans le montage.
Oui, et ben, l'image, parce que le film, c'est contraire à la radio, il autorise deux éléments.
Au moins, ouais, parce qu'il y a même la musique. Voilà, donc, la musique, travailler ouais. Sur des chants...
Le son et l'image, et entre les deux, il y a une notion de temps aussi qui sont différents. Le sens prend... Enfin, image et son combinés donnent un autre sens, par exemple. Et cet décalage associé d'un texte de Mao, de Robespierre, sur les images intimes, de rêves, en fait, donne une autre lecture qu'on... Il y a des textes que je suis d'accord, hein, de révolution que je suis d'accord, mais je suis pas du tout. Je suis très 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 fan des textes révolutionnaires. Hein. Je trouve que encore une fois, je trouve que des textes extraordinaires, des Lumières, que je veux dire, Jean-Jacques Rousseau, tout ça, c'est très intéressant à relire quand même.
Vous parlez du rêve, et en effet, je disais tout à l'heure, un espace mental, il y a vraiment même des associations d'idées comme peut le fabriquer l'inconscient dans des rêves. Et je voudrais qu'on écoute une archive d'une jeune femme encore, Caroline Nguyen, metteuse en scène d'un spectacle, où elle a travaillé sur la question de l'imaginaire.
En fait, Saïgon, ça n'est pas un spectacle qui est... c'est un spectacle qui est documenté, évidemment, on a lu plein de choses, mais ça n'est pas un spectacle documentaire. Enfin, c'est très clair pour moi que, en fait, je suis très friande de fiction. Et c'est vrai que c'est marrant, je me suis dit ça, je me dis, mais comment ça se fait que les gens, souvent, je lis ou j'entends que c'est quelque chose de documentaire? Et je me dis, mais alors est-ce que justement, que tout d'un coup on n'avait pas le droit de déplacer de l'imaginaire, de la fiction sur certaines personnes, que certaines personnes devaient être absolument clouées au réel et qu'on devait uniquement faire nous un geste de ramener ce réel-là, point. Ben non, en réalité, moi franchement, Saigon, vraiment, je me suis amusée à imaginer, mais tout en étant inspirée fortement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai écouté, mais c'est de l'imaginaire. Peut-être qu'en fait, l'imaginaire est beaucoup plus dangereux qu'on le pense au final. Que finalement, c'est peut-être pas ce qu'on prétend être le réel qui est très très dangereux, ou qui est très subversif, ou qui nous renseigne, ou qui nous... Que finalement, c'est peut-être justement notre capacité de mettre des gens en récit, de nous ouvrir à nous, c'est-à-dire de vraiment de se dire, bah alors, mais qui c'est cet homme qui chante dans un karaoké et comment on ouvre de l'imaginaire derrière ça, qui tout d'un coup devient peut-être plus politique aujourd'hui.
Un dernier extrait de votre film Exil, Ritipan, et juste avant, la metteuse en scène et autrice Caroline Nguyen parlant de son spectacle Saigon comme d'un spectacle non pas documentaire mais documenté, et dans lequel la dimension imaginaire est peut-être la dimension la plus politique. Est-ce que vous souscrivez ?
Oui, parfaitement. Oui, c'est, j'ai toujours dit que il faut fictionnariser le réel. De toute façon, quand ça sort, si vous voulez travailler dans l'art en général, rien n'est plus réel. C'est votre expression qui devient réel presque, important. Mais vous travaillez avec les matières réelles. Oui. Mais quand on fait des fictions, au contraire, oui, on fournit aux acteurs ou aux décorateurs les éléments documentaires. Quoi.
Et vous lui avez dit quoi à l'acteur d'Exil ?
Moi, je dis pas grand chose. Je dis, j'explique la scène. Et puis, il avait pas vécu les Khmer Rouges, mais je dis voilà, moi, je suis obligé de manger griller les sauterelles comme ça, mais c'est, t'es capable de le faire ou pas, tu veux? Il dit, ah bon, tu fais comme ça? Oui, mais à l'époque, moi, je raconte l'histoire, quoi. Et puis, ça devient, ça peut être dégoûtant pour le spectateur, ça peut être insupportable. Moi, ma compagne supporte pas le film. Hein. Elle regarde le plafond parfois. Parce que c'est très dur pour ceux qui vivent avec vous aussi d'encaisser ce genre d'histoire, quoi. Mais il faut que cette forme de fiction, que cette forme, en fait, de poésie, en fait, vient accoucher cette douleur. Cette douleur, c'est pas, vous sortez pas, ou cette chose-là, mettez-la sur la table, quoi. Personne ne fait ça. Il mourrait avec ça. Donc, il faut que la fiction vienne, mais dans la limite du supportable aussi, dans la limite d'une certaine respect aussi. C'est pas mentir non plus. Mais aussi réel qu'il soit, dans un film aussi réel qu'il soit, c'est vous qui mettez en scène l'espace et le temps. Donc, tout devient subjectif déjà.
Cet art qui vous permet d'accoucher la douleur justement, ou tout à l'heure pour dire, d'aller dans le mouvement inverse de l'anéantissement, est-ce qu'il vous permet, non pas de réparer, mais de, par exemple, faire apparaître des gestes à l'écran qui ne peuvent plus exister dans le réel? Je pense à cette image-là, parce qu'elle m'a beaucoup marquée. Superposition d'images de mains de femmes sur le visage du jeune homme. Je me dis, Faire du cinéma, c'est aussi produire des images, les images qu'on veut voir.
Oui, qui n'existent pas. Moi, je commence... Quand vous êtes en lutte, ça va. Vous avez l'énergie de lutte. Ça, vous foncez toutes les portes. Et quand vous commencez à se sentir mieux, c'est là que les fantômes viennent vous attraper. Et les mains de ma mère, c'est, mes joues me manquent. Je sombrais le moment où j'ai découvert que j'ai choisi un métier, que je peux faire ce métier, et mes parents sont pas là. J'aurais aimé, comme tout le monde, prendre un repas dimanche avec mes parents, ou faire une petite promenade au bord du fleuve, ou manger de la glace ensemble. Et ça me manque énormément, et comment je vais faire avec cette manque? Alors je le fabrique. Je le fabrique et je vis à travers cette image irréelle, pas vraie. C'est une image transparente, c'est une image... Mais je le sens, les mains. Mais je fais le film pour moi aussi. Hein. Je fais le film pour les autres, je fais le film pour moi aussi. Si je le sens, les mains, et après, est-ce que je me sens bien? Je ne sais pas. Personne ne peut dire que vous allez voir mon film et vous allez... Super bien. Après, de temps en temps, je disais que je devrais distribuer l'exhumé à tout le monde. Ce film est tellement compliqué. Et les gens... Non, des fois, je sais, c'est difficile. C'est difficile. Donc, moi, je dis, bon, voilà, j'ai fait ça et voilà. Et c'est pas en parlant que vous sentez bien. Je suis pas du tout... Je peux pas garantir. Mais au moins, vous parlez. Au moins, ils sont plus là. La douleur est sortie.
Merci beaucoup, Rétipane. On a parlé de deux films, Exil et La France est notre patrie. Et c'est paru en DVD chez Épicentre. Vous serez aussi l'invité d'un festival au Louvre en janvier qui s'appelle le Festival des films d'art, 25-27 janvier à Paris. Au son ce soir, c'était Pierre Monteil à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et en podcast en vous abonnant au podcast de l'émission Par les temps qui courent. Vous trouverez aussi la référence des archives et des musiques qui sont diffusées. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous allez retrouver le journal dans un instant et moi je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.